La Gemara dans Chaya daf Tzayin, Amar Rabbi Kospedan Rabbi Yochanan, une Gemara bien connue par rapport à Rosh Hashanah. Shlosha Sfarim Niftachim Rosh Hashanah. Il y a trois livres qui s'ouvrent au ciel à Rosh Hashanah. Echad Shel Reshaim Gmurim, Ve'echad Shel Tzadikim Gmurim, Ve'echad Shel Benonim. Un livre de Reshaim, Reshaim parfait, un des tzadikim parfaits et un des ceux qui sont moyens. Tzadikim gourim nirtavim, ce que je n'ai pas l'alta. Benonim, c'est moyen, ceux qui sont moitié tzadik, moitié racha. On va expliquer ce que c'est. Les tzadikim, nous dit la Gemara, eh bien, sont inscrits et sont signés tout de suite les chayim. Les reshaim gourim, eh bien, ils sont inscrits et signés tout de suite les mita pour la mort. Alors que ceux qui sont moyens, trim blondim, ils sont suspendus dans Shana Akipo. Zahou, s'ils ont du mérite, il y a une dire ça dans le fin du Rambam, Zahou la sot tchouba, s'ils ont le mérite de faire tchouba, eh bien, Mirtabim, les Chaim, automatiquement, ils sont inscrits dans l'île de la vie. Et sinon, eh bien, le contraire. Alors évidemment, la question qui se pose tout de suite, c'est que comment dit la Gemara que ceux qui sont sadikim sont inscrits tout de suite les chayim. On voit bien des grands sadikim qui meurent dans l'année. On voit des rechaim aussi qui ont une longue vie, une belle vie. Comment expliquer cette Gemara? On a plusieurs réponses. Une des réponses, c'est le Tosfot. Dit le Tosfot. De cause de karacha de rechaim. Lorsqu'on parle ici de vie et de mort, il ne s'agit pas de ce monde-là. Il s'agit de la bas du monde futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette mort ne parle pas du tout, est-ce qu'une personne va terminer son année ou pas. Ce n'est pas du tout le sujet, c'est hors sujet. Elle parle d'autre chose. Lorsqu'on parle de Chaim, c'est quoi? On parle de vie spirituelle. C'est-à-dire que nous avons tous dans notre vie, eh bien, ce qui nous intéresse, ce qui nous motive, ce qui nous réjouit, et ce qui nous dérange, ce qui nous perturbe, ce qui nous tracasse. Pour chaque personne, l'échec et la réussite a une définition différente. Qu'est-ce que c'est réussir? Qu'est-ce que c'est échouer? Si tu investis, par exemple, ton argent dans une action, dans un jeu, alors, pour telle personne, en effet, s'il a gagné une certaine somme d'argent, eh bien, c'est une grande réussite. Et pour l'autre, c'est un grand échec. Alors que pour d'autres personnes, ça a moins de valeur. C'est moins important. Lorsqu'on t'a bousculé dans la rue, est-ce que pour toi, c'est un affront terrible ou alors c'est un léger dérangement, une légère perturbation? Eh bien, chacun, il a une échelle différente, une échelle de valeur qui va donner une importance et une valeur à chaque élément. Si on t'a sali ton habit, si on t'a déchiré, est-ce que tu feras un scandale ou alors tu vas être à peine légèrement dérangé? C'est dépend de toi. Ça dépend, eh bien, de l'échelle de valeur que tu as consciemment et inconsciemment. Par exemple, pour illustrer cette idée, le Khatam Sofer était une fois, tous les jours, en train d'étudier chez lui à la maison. Il a aperçu par la fenêtre un voleur qui rentre dans sa cour, voler du bois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté à la fenêtre, il lui a dit: tout mon bois est FKR. C'est-à-dire que tu peux le prendre. Il est FKR. Et FKR, n'est-ce pas, c'est enlever sa possession d'un élément. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu fasses l'avéra de voler. Alors comment éviter, n'est-ce pas, qu'un Israël fasse l'avéra? Eh bien, c'est FKR. Et le voleur, qui avait déjà le bois en main, qui était effrayé, l'a fait tomber de ses mains. Alors, en fait, il s'est précipité pour le ramasser. Il a dit: j'ai une mitzvah de t'aider à ramasser. Azov, ta azov, il maudit la Torah. Quand tu as quelqu'un, n'est-ce pas, qui a un fardeau qui est lourd à porter, eh bien, tu as une mitzvah de l'aider. Et tout cela, c'est des réactions spontanées. C'est pas qu'il a programmé. Parce que lui ne voyait pas le vol ou la perte d'argent. Il voit que des mitzvot et la avérus. Il voit que derrière une avéra, comment éviter la avéra FK. Il a fait tomber le bois, il y a une mitzvah, je vais l'aider. C'est son échelle de valeur, évidemment. Ça prend des dizaines d'années pour arriver à un tel niveau. C'est-à-dire qu'en fait, chacun, n'est-ce pas, il a une échelle de valeur bien déterminée. Et comme dit Rav Dessler en Ertem Eliaou, il y a ce qu'on appelle l'ekudata bechira, le point de ton libre arbitre. C'est-à-dire que pour chaque personne, il a tous les jours, ou presque tous les jours, un débat, un combat intérieur. Est-ce qu'il va céder à son yetzara ou pas? De quoi c'est utile? Alors quelqu'un qui est loin de la Torah, pour lui, son combat tous les jours, c'est est-ce que se marier avec une goya ou pas. Quelqu'un qui est plus avancé, eh bien ça c'est déjà révolu depuis longtemps. Son yetzara, c'est quoi? C'est est-ce que manger kasher ou pas. Un autre qui est plus avancé, il mange kasher toute sa vie, mais pour lui c'est le Shabbat. Est-ce que le Shabbat ou pas? Pour nous qui sommes déjà plus avancés, eh bien notre problème c'est quoi? Est-ce que se lever tôt le matin à la tefila ou pas? Se concentrer dans la tefila ou pas? Est-ce que tu as une kavana comme il fait dans le Kachema? Est-ce que tu vas critiquer ton camarade? Est-ce que tu vas déclencher une dispute lorsqu'on t'a insulté? Etc. Chacun il a dans son échelle de valeur, eh bien un point dans lequel il a un débat, un combat intérieur avec lui. Est-ce qu'il va avancer d'un échelon ou il va se laisser glisser et descendre d'un échelon? Et ça s'appelle en fait ton niveau spirituel, ta vie au Olamaba. C'est-à-dire que l'itospot ici, lorsqu'on vient nous juger à Rosh Hashanah, attention, il y a deux lignes. Hachem va décider qu'est-ce qui va t'arriver toute l'année. Mais avant de décider cela, il y a encore une vérification bien plus importante. Il y a quelque chose qu'on doit vérifier, qu'on doit mettre en compte. C'est quoi? Quel est ton niveau spirituel? Quelle est ton échelle de valeur? C'est quoi faire là-bas? Hein? Si cette personne-là, eh bien, allait quitter le monde aujourd'hui, eh bien, quelle place on lui donnerait au Olamaba? Qu'est-ce qu'il mériterait? Quelle est sa partie prenante au Olamaba? Et ça, au Olamaba. Comme dit la Gemara, Ezehu ben Olamaba. Quel est l'homme qui fait partie de Olamaba? Comme on dit en hébrit, ben Bayit. C'est quoi ben Bayit? Quelqu'un, n'est-ce pas, qui est fils de la maison, c'est-à-dire, c'est un membre de la famille. Même s'il est à 50 km, il est encore ben Bayit. Il vient quand il veut, même à 3h du matin, il rentre sans toquer, il est ben Bayit. Pas aussi ben Olamaba, quelqu'un. Son niveau spirituel, il est tellement élevé que son âme, eh bien, son identité, sa personnalité, elle fait des choses, oui ou non, uniquement par rapport au Olamaba, comme Hatam Sofer. Son compte, c'est quoi? C'est uniquement Mitzvah Avera. Il est déjà ben Olamaba. Son échelle de valeur, c'est uniquement le domaine spirituel. Et cela, Hachem, à Rosh Hashanah, il va vérifier avant de nous juger. Pourquoi? Alors comme on l'a dit hier, le Rambam explique qu'en fait, Ha'sra mitzvot behay al-malika. Il n'y a aucune récompense dans ce monde-là. La récompense, elle est gardée au monde futur. Cependant, dit le Rambam, la Torah nous parle de pluie et de rosée, si vous faites les mitzvot, et du contraire, si on fait des avérotes. De quoi s'agit-il? Il s'agit des conditions de travail qu'on va te donner. C'est-à-dire que Hachem va pas te récompenser, te donner, n'est-ce pas, ce que tu mérites réellement pour la mitzvah dans ce monde-là, tout égard dans le futur, mais il va te donner des conditions de travail adéquates. Si tu es vraiment intéressé par la mitzvah, par la Torah, par la tefila, on va t'aider à le réaliser. Si tu n'es pas intéressé, alors on va te prendre même le taux que tu as. Parce que ce n'est pas la peine de te confier, n'est-ce pas, 1 million si tu l'investis mal. Alors les meilleures conditions, Hachem va les donner à une autre personne. Comme on l'a expliqué hier, c'est-à-dire qu'en fait, Même les difficultés, Saint-Tikoun, lorsqu'on doit se mesurer dans certaines périodes de la vie avec certaines épreuves, certaines situations difficiles, en fait, le fait de devoir se maîtriser, surpasser telle période difficile, c'est un Tikkun pour nous. Et dans l'ordre d'idée, lorsqu'on parle de bonnes et mauvaises conditions, tout est, c'est très aléatoire, ça dépend, n'est-ce pas, d'une échelle qui nous dépasse. C'est l'échelle divine d'Hachem. C'est-à-dire, comme on constate aussi que des tzadikim ont des fois aussi beaucoup de galères, beaucoup de problèmes. Et dans certains cas, ce sont les meilleures conditions qu'Hachem pouvait leur réserver. Dans certains cas, Hachem, eh bien, c'est pertinemment que, avec l'épreuve, malgré l'épreuve, grâce à l'épreuve, grâce à la situation difficile qu'un tzadik doit affronter, eh bien, c'est grâce à ça qu'il va plus s'élever et progresser dans sa Torah. Donc, lorsqu'on parle de bon décret, c'est entre guillemets. Bon décret pour lui, pour toi, tel qu'Hachem le comprend et l'entend. Je fais la parenthèse. Donc en fait, lorsqu'Hachem veut décider que nous donner l'année à venir, eh bien, d'abord il va vérifier quel est notre niveau spirituel, quel est notre système, notre échelle de valeur. Qu'est-ce qui est important pour nous? Quel est notre niveau spirituel par rapport au Olam Haba? Si on quitterait ce monde maintenant, eh bien, quelle serait notre partie par rapport au Olam Haba? Et là, dit la Gemara, un tzadik, il appelait Chay. Tzadikim, Bechayem, Kouim, Chayim. Un tzadik, pardon, même, Fubitatam. Tzadikim, Mitatam, Kouim, Chayim. Même après leur mort. Chalchikan encore plus lorsqu'il vit. Lorsqu'on parle de Chayim, on parle de vie spirituelle. Enfin, attention, il y a certains termes dans le Talmud, dans le Midrashim, c'est pas à prendre au sens propre, c'est au sens figuré. C'est le cas ici du Tosfos. On parle de Chaim, c'est pas la vie dans ce monde-là. C'est quelle est ta vie personnelle, intérieure, divine, spirituelle. Lorsqu'on dit Nertaim le Chaim, eh bien Hachem, ce tzadik-là, eh bien Hachem a écrit et a signé que cet homme-là fait partie du livre de la vie. Point final. Il n'y a aucun décret. C'est pas un décret. C'est pas ce qui va lui arriver l'année à venir du tout. C'est une déclaration, une signature. Hachem va signer cet homme-là, on y croit, Chay. Quelqu'un qui est Benoni, c'est quoi le Benoni? Quelqu'un qui veut les deux. Là, la mazur là en bas. Il ne laisse pas profiter de la vie au maximum. Mais il veut aussi, n'est-ce pas, les mitzvot. Alors bon, entre les deux, alors on t'a laissé une chance. Tu as 10 jours pour faire tes preuves, pour avancer, surtout, faire tshuva. Zahru l'asot tshuva. La question est posée, pourquoi dit le Rambam tshuva? Même sans tshuva, c'est écrit que Hachem matek la pachesed. Quand tu es moitié-moitié, eh bien Hachem, il fait basculer la balance du côté positif. La réponse est donnée, c'est que la tshuva, toute l'année, n'est pas impérative. Mais dans ces 10 jours-là, elle est impérative. Pas faire une tshuva, c'est une grave avéra. Selon qui sont imposés, ok, pas fait tshuva. Mais il avait des tefilin, il a mangé kasher, il a fait shabbat, il a fait la tefila, et de la Torah, il a réalisé des dizaines, des centaines de mitzvot pendant ces journées-là. Le point de vue à la moussard, c'est vrai, mais sans la tshuva, ça ne suffit pas. La tshuva est tellement impérative que si on ne la fait pas pendant ces 10 jours-là, eh bien ça contrebalance tout le reste. La tshuva est impérative. Surtout pour les benonim, n'est-ce pas? Pour les Rechaim, mais aussi pour les tzadikim. Il y a toujours quelque chose à rajouter dans le domaine de la Shuvah. Donc en fait, nous dit Tosfot que cette Mara, de quoi est-ce qu'elle parle? Non pas des décrets de l'année à venir, mais de ton niveau spirituel. Est-ce que tu fais partie du livre de la vie ou pas? Est-ce que tu es Chaim ou pas? Et ensuite, à partir de cela, Hachem va décider qu'est-ce qui va nous arriver l'année à venir. C'est notre Gemara, notre Braïta, qui dit, eh bien, tout le monde est inscrit à Rosh Hashanah et tout le monde est signé à Kippour. Tout le monde est inscrit à Rosh Hashanah et tout le monde est signé à Kippour. C'est pourquoi c'est pour ce qu'ils disent, ne pas dire à Rosh Hashanah, Shantua tekatel, vetechatem, lealtav echem toim. C'est faux. Parce qu'il n'y a aucune signature par rapport à ton année à venir à Rosh Hashanah, même pour les Tzadikim. Je récapitule. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem va vérifier quelle est notre vie spirituelle, notre dimension par rapport à la Torah et les mitzvot. Quel est notre intérêt, notre shayichut, notre contact. De quelle façon nous sommes rattachés à la Torah et les mitzvot. Il va vérifier ça. Et là, il y a une signature à Rosh Hashanah pour les tzadikim et les rechaim. Et la signature à Yom Kippourim pour ceux qui sont entre les deux. Deuxièmement, c'est tout ce qui va arriver toute l'année. Dans ce cas-là, eh bien, tout le monde est inscrit à Rosh Hashanah, tout le monde est signé à Yom Kippourim. Top. Donc les masses. Concrètement, ce qui nous concerne, c'est que, mis à part le fait...
On inscrit où ? Dans le livre de la mort ou le livre de la vie ? Pour les bénonymes. Parce que si on est inscrit dans le livre de la mort et c'est signé à Kippour, on n'a pas intérêt. Si maintenant on est inscrit dans le livre de la mort...
À Rosh Hashanah ou qui pour trouver la question ?
À Rosh Hashanah, et si maintenant la signature...
Non, d'après l'Agma Ali, il y a un troisième livre.
Donc on est tous inscrits.
Il y a le livre des moyens. Il y a trois livres. Le livre des moyens. Bon, certains le dire aussi qu'en fait, il n'y a pas de livre. Il n'y a pas de livre. Comme dit la Torah, Zé Sefer Toldot Adam. Le livre, c'est toi. C'est-à-dire que tu prends devant Hachem, eh bien, tu vas, n'est-ce pas, tu vas te présenter avec le livre de ta vie, de ce que tu es. C'est-à-dire qu'une personne va véhiculer automatiquement son essence personnelle réelle. C'est ce qui va le définir. Donc, en fait, par rapport à cette Gemara, selon le Tosfot, il y a d'autres démarches ici, c'est de Ramban et de Ram, on a expliqué sur le Tosfot et le Gaon Mivilna. Donc en fait, mis à part le fait de l'importance de demander une bonne année, une belle vie, cause de Sefer Chaim Tovim, c'est vrai, mais encore plus important que cela, à Rosh Hashanah et les jours qui le précèdent, c'est faire un Cheshbon Nefesh, un bilan par rapport à cela. Quel est ton niveau par rapport au Lamba? Si Hachem nous appelait au ciel, au Lamba, eh bien, quel serait notre niveau, quelle serait notre partie, notre Khalek? Ce qu'on vérifie à Rosh Hashanah. Et en fait, c'est le plus important. Quand il dit Balamoussa, dans la Tshuva, il y a la faute. La faute, en effet, bon, c'est un problème. La faute va faire des dégâts par rapport à la mitzvah qui a été manquée, par rapport à la personne, par rapport au monde entier. Mais le plus important, le plus grave, c'est le fait de s'être éloigné d'Hachem. Le fait d'avoir aussi diminué son niveau spirituel. Quand on fait une mitzvah, au contraire, eh bien on a augmenté, on a élevé son niveau spirituel à une dimension bien plus grande. Et en fait, c'est ce qui doit surtout nous préoccuper à Rosh Hashanah et Kippour, non pas en tant que décret pour l'année à venir, mais par rapport à l'essence même de notre personnalité. Et en fait, comment le vérifier? Alors, on a Sefer Yashar, on pense que c'est Rabbi Tam qui l'a rédigé, et donc ça. On dit Sefer Yashar que, eh bien, c'est pas difficile à vérifier. Lorsqu'on se rend compte que nous sommes attirés, intéressés par une mitzvah, une fila, une Torah, une tzedaka, un chesed, c'est un bon signe. C'est-à-dire que, eh bien, ton âme, eh bien, elle est proche de tout ce qui est divin, ce qui est spirituel. Si au contraire, on est trop tiraillé, attiré par ce monde matériel, par d'autres avérotes, eh bien, dans cette optique-là, par rapport à cela, eh bien, on est loin de la tzitzkout. Très souvent, on a les deux. C'est les bénonymes, en effet. On est attiré et par cela. Le Shabbat, c'est un grand kiff. La Torah, c'est passionnant, c'est intéressant. En effet, c'est un bon signe. Mais le monde matériel, c'est très intéressant aussi. Et là, il y a un travail réalisé toute l'année, mais surtout lorsqu'on arrive à Rosh Hashanah et Kippour. Parce que c'est le moment où jamais d'élever la dimension de notre personnalité dans le domaine divin et spirituel. D'abord parce que c'est là où on fait un bilan annuel. Deuxièmement, parce que Hachem est très proche de nous. Yeshua Hashem, Beimatzo, Krov et Tokrov. Implorez Hachem lorsqu'il est parmi vous et appelez-le lorsqu'il est proche de vous. C'est les dieux de Rosh Hashanah Kippour. Hachem est très proche et on peut agir de façon bien plus grandiose, comme quelqu'un qui roule en voiture. Alors si vous faites du 30 à l'heure, mais tourne à droite, il faut bien tourner le volant. Mais si vous roulez à 200 ou à 300 à l'heure, à peine vous l'avez touché de quelques millimètres, vous allez être déporté à droite ou à gauche. Par aussi, en chaîne à Kipo, eh bien, on roule à grande vitesse. Et tout ce que tu vas réaliser en toi a un impact bien plus important, bien plus intense par rapport à toi et ton ami. C'est-à-dire là, on peut agir, n'est-ce pas, comme par rapport aux cellules les plus profondes de notre âme. Rochana, comme son nom l'indique, c'est la tête de l'année, c'est le cerveau de l'année. Dans le cerveau, eh bien, ben nous avons des millions de cellules qui sont en train de diriger tout ce que tu vas réaliser, tout ce que tu vas dire, ce que tu vas penser, chaque instant. Il y a un petit problème, c'est le cœur de l'année. Alors en fait, bon, chacun a un avantage par rapport à l'autre, c'est-à-dire que le cœur, n'est-ce pas, a des facultés que le cerveau n'a pas, et le cerveau a des facultés que le cœur n'a pas. Et c'est pourquoi ils sont si importants par rapport à notre année, et non seulement notre année, mais aussi notre vie éternelle, vie spirituelle. Parce qu'en Rosh Hashanah, on est en train d'agir sur les cellules les plus profondes, les plus fines de notre identité. Lorsqu'on va agir pendant Rosh Hashanah à faire une tshuva comme on l'a dit hier, non pas regretter les fautes, mais accepter les kavim al kuto, accepter le roté d'Hachem, c'est-à-dire prendre sur soi des fermes résolutions d'accomplir la Torah à 100%, de façon optimiste, de façon positive, et bien cette tshuva va agir non seulement, n'est-ce pas, pour nous donner un décret spécifique par rapport à l'année à venir, mais surtout, ça va élever notre niveau spirituel. Notre être va être transformé. Parole pour Kippour. Lorsqu'un Kippour, eh bien, on fait une bonne tfila, on fait une tshuva comme il faut. Là, en effet, on doit réunir les deux ensemble et regretter les fautes avec le bidouille, etc. Ainsi que les kavel malchuto, accepter encore une fois comme un Rosh Hashanah la malchut d'Hachem. Et ainsi, on est en train d'être transformé. C'est pas qu'on est en train, n'est-ce pas, de faire une fila, Hachem va me dire tu as bien prié, je te récompense. Pas du tout. On est en train de réaliser quelque chose qui va transformer notre être. C'est ça l'importance de Rosh Hashanah et Kippour. Et comme on l'a dit hier, je le répète encore une fois, c'est que ça se réalise pas uniquement dans le domaine de l'action et de la parole, mais aussi et peut-être surtout dans le domaine de la pensée. Comme le cerveau humain, c'est le domaine de la pensée, et bien Rosh Hashanah aussi, c'est la pensée, l'idéologie de ton année à venir. Et Rosh Hashanah, on est en train d'emprunter une orientation. Quand tu arrives à une croisée des chemins, et tu as 4 ou 5 ou 6 routes, à droite, à gauche, devant, derrière, et tu choisis. À droite, à gauche, est-ce qu'on fait Rosh Hashanah avec vous ? On est en train de faire un choix, de décider. Et bien ma direction est celle-ci. Ma direction est celle-là. Tu sais, des fois, lorsqu'on est engagé sur une autoroute, alors une fois que tu es engagé, tu dois attendre 100 km pour la prochaine sortie. Tu es coincé. C'est pas aussi, Rosh Hashanah Kippour. Tu t'es orienté, tu attends une année entière pour faire demi-tour. Comme on l'a expliqué hier, c'est-à-dire qu'on peut toujours réaliser des changements pendant l'année. Mais cependant, c'est comme voyager de ville en ville. Alors que Rosh Hashanah Kippour, tu es en train de prendre une fusée et tu vas t'installer sur une planète que tu vas choisir. Une sphère tout à fait différente de la sphère que tu habites aujourd'hui. C'est dans le domaine de l'idéologie. On peut se choisir. Et bien de quelle façon aborder le monde, la vie et les hommes à Rosh Hashanah Kippour. On peut voir dorénavant le monde de façon tout à fait différente. Ça, c'est l'importance de Rosh Hashanah Kippour. Alors, comme l'a expliqué l'autospot, c'est surtout par rapport à ta dimension spirituelle. C'est-à-dire que si jusqu'à aujourd'hui, il a donné beaucoup d'importance au monde matériel, Par exemple, je me rends compte que, en effet, si quelqu'un m'a salé mon vêtement, eh bien, j'ai pris une crise de nerfs. Alors que si j'ai raté une mitzvah, bon, je l'ai raté. Je me suis levé tard, manqué la tefila. Bon. Là, en effet, on peut réaliser à Rosh Hashanah et Kippour le contraire. Tu peux réaliser en toi, eh bien, une transformation que tu vas faire, n'est-ce pas, tu vas être, comme on dit, tu vas faire demi-tour. Tu vas faire un changement de 180 degrés. Ça, on peut le réaliser à Rosh Hashanah et Kippour. Comme une fois, quelqu'un avait demandé à un rabbin, il a dit, comment ça se fait que ses enfants n'étaient pas réussis. Il n'a pas réussi dans l'éducation des enfants. Ils ne sont pas intéressés. Ils font les mitzvot comme c'est comme ça, mais ils ne sont pas vraiment motivés par la Torah, par les mitzvot. Alors que mon camarade, mon voisin, bien que c'est quelqu'un de simple en Torah, il n'est pas érudit en Torah comme moi, mais lui, ses enfants, eh bien, sont devenus beaucoup plus grands que les miens. Ils sont tous réussis. Ils aiment la Torah et les mitzvot. Rav lui a dit, c'est très simple. Voilà, j'ai remarqué, j'étais une fois invité chez toi. Eh bien, ton enfant, il a fait tomber un verre, le vase s'est renversé, le verre s'est cassé. Tu lui as fait un scandale. Un scandale. Alors que, un autre Shabbat, un enfant à toi a allumé la lumière. Tu lui as dit, bah, c'est ton problème. Tu as haussé les épaules. L'enfant n'est pas à capter. Eh bien, que le verre et le vin, c'est plus important que respecter le Shabbat. Tu as beau dire le contraire, mais tu as transmis, tu as véhiculé un autre message. Alors que ton voisin, n'est-ce pas, eh bien, il est un homme simple en Torah. Mais dès qu'il voit un rave, il saute sur lui, il le respecte, il l'honore. Une fois, je crois que c'était Abraham Rassaman, il rentrait chez quelqu'un pour demander de l'aider pour la yeshiva. Et comme il y avait de la neige, il y avait beaucoup de boue dehors, alors il ne voulait pas lui salir, il s'est tapé dans son salon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré par la cour. Lorsqu'il est rentré, l'homme lui a dit, Rabbi, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train, n'est-ce pas, d'esquinter l'éducation de mes filles. Moi, c'est les filles. Elle dit, rentrez par le salon. Le rab de Rosh Yeshiva rentre par le salon. Vous allez le salir par la boue sur les tapis. C'est comme ça que je veux que mes filles voient qu'on respecte la Torah. Si on fait rentrer le rab par la cour pour ne pas salir le salon, et bien ma fille, mes filles, qu'est-ce qu'elles vont capter? Elles vont comprendre que préserver le salon dans sa propreté, c'est plus important que d'honorer un grand refuge. Ça, c'est le système de valeurs que chacun de nous, on est en train de le proclamer, le déclarer, le transmettre, le véhiculer à chaque instant. À chaque instant, eh bien, ta réaction, ta parole, ta pensée va traduire ce que tu es réellement. Il y a une fois un garçon qui avait quitter la Torah, quitter la Yeshiva. Ensuite, il a fait Tshuva. On a dit, qu'est-ce qui t'amène à faire Tshuva? Alors, il a dit, je me suis rappelé d'un de mes maîtres. C'était même pas un chacham, c'était un professeur de Torah. Une fois, deux enfants se sont disputés en classe. Et l'un a pris un tanar, il a jeté sur son camarade. Comment est-ce que le professeur a réagi? Simplement, il s'est mis à pleurer. Dans tous les deux lettres. Elle dit, je me suis rappelé de ça. Je dis, voilà, ben, j'avais l'image de quelqu'un qui honore, qui respecte la Torah. Des fois, on peut faire des beaux discours, des beaux cours, mais quand tu montres le contraire, ça ne marche pas. Ça, c'est notre dimension réelle, spirituelle, avec laquelle on vient se présenter devant Hachem en Rosh Hashanah. Le din, ce qu'Hachem va décréter, c'est une conséquence de tout cela. C'est secondaire par rapport à ce que tu es réellement. Une histoire remarquable. Dans une classe, c'est un Talmud Torah ici en Israël. Une fois, le rabbin a demandé aux enfants de 12 ans, dites-moi les enfants, quel est, à votre avis, la chose qu'il y a la plus importante au monde. On va s'apprêter à ce que la dise la Torah, la Tfila, le Shabbat. Bon. Un enfant au fond de la salle, il crie la Dafina à voix haute. Évidemment, tous les élèves éclatent de rire. On s'approche de lui, il voulait le gronder. Mais il a remarqué que l'enfant était crispé, étendu, était mal à l'aise. Il a compris qu'il y a un problème, il a rien dit. Alors, attention, il a appelé, il a dit, dis-moi, c'était quoi ta blague en question? Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, eh bien, c'est ce que je vois chaque Shabbat chez moi à la maison. Mon père m'a dit, dis-nous les vraies Torah que vous avez fait à l'école. Et pendant que je raconte la paracha, mon père est en train de déguster la date finale. Il me dit, Ken, oui, oui, oui. Il ne coûte pas un mot de ce que je dis. Alors j'ai capté que la Dafina, c'est plus important que le mot de toi. Évidemment, n'est-ce pas? Le père a été convoqué, on l'a dit ça, il a tremblé. Et depuis, eh bien, non seulement il poussait son assiette de côté, mais il faisait taire toute la famille, mettait l'enfant sur une chaise pour que l'enfant dise son Bar Torah devant toute la famille. Donner de l'importance à son Bar Torah. Une fois, notre enfant avait raconté, il avait quitté la Torah, enfant de 12 ans. Alors, une fois, quelqu'un qui est mon rabbin s'est venu, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a dit, entre autres, il a dit, eh bien, une fois à la maison, on a changé le papier peint. Et mon père, lorsqu'il est rentré à la maison, tout de suite, il s'est précipité, il s'est mis à caresser le papier peint. Il a dit, j'ai jamais vu mon père caresser un sidour ou un télim ou une gmara. Jamais. Mais une fois qu'on a changé comme à la maison, eh bien, mon père, il a été transformé. Il était en extase de joie. Et là, automatiquement, eh bien, le père transmet à ses enfants qu'est-ce qui est réellement important pour lui. Est-ce que la Torah ou alors la belle vie? C'est cette dimension. C'est ce niveau spirituel. Eh bien, avec lequel on va se présenter devant Hachem à Rosh Hashanah Kippour. Et en fonction de cela, Hachem va décider ce qu'on va arriver. Donc c'est pourquoi notre choix est Rosh Hashanah. C'est pas uniquement demander une belle année, on doit aussi le faire, n'est-ce pas? On fait des tirotes là-dessus, on fait des simanim, c'est aussi important. Parce que la prise de conscience que tout dépend d'Hachem, c'est déjà aussi une élévation spirituelle. Le fait de bien prendre conscience que le monde est dirigé par Hachem, non pas par les hommes politiques, non pas par la nature, mais Hachem dirige le monde, c'est déjà aussi une élévation spirituelle, et c'est pourquoi on le demande aussi. Mais à part cela, plus important que cela, se rendre compte, essayer de vérifier quel est notre shaykhout, notre rapport avec ce monde matériel, et quel est notre rapport, notre contact avec la Torah et une autre. D'abord, il faut, n'est-ce pas, bien analyser pour bien se situer, plus ou moins, et ensuite réaliser en soi un effort d'élévation, de motivation, d'intérêt, ne serait-ce que de proclamer devant Hachem, Hachem, aide-moi à aimer la Torah. Des fois, on n'aime pas une mitzvah. On l'a fait, mais ça ne m'intéresse pas. C'est barbant, c'est ennuyant. Ok, c'est normal. C'est normal. On ne va pas te le reprocher. Ce qu'on peut te reprocher, c'est de t'être masqué le visage, de ne pas avouer la vérité. On ne te reproche pas, n'est-ce pas, d'être à un niveau bas par rapport à une mitzvah. Mais ce qu'on te demande, c'est d'en être conscient et de travailler, de prier là-dessus et d'essayer d'avancer, d'être de plus en plus intéressé par la Torah, la mitzvah, la tefila, le Shabbat. Quand on voit qu'on n'est pas intéressé, il faut agir en conséquence. Par exemple, les meilleurs conseils qui sont donnés par le sédentaire, eh bien, une mitzvah qui ne t'intéresse pas, il faut l'étudier. Étudie la halakhot, étudie le moussard, tu verras, ça va te transformer. Vous voyez des sougiotes qu'on fait dans la Gemara, eh bien, automatiquement, on va après quelques mois ressentir un grand rapprochement avec cela. Des halakhot qu'on va étudier pendant des mois, eh bien, il nous est beaucoup plus facile de la comprendre. Parce que Talmud, Mevi le Maaseh. L'étude va t'aider à fusionner avec le sujet à la mise en question. Tu t'es investi. Tu as mis de l'énergie, du temps pour comprendre ces textes-là. Eh bien, tu investis une partie de ton essence. Automatiquement, il y a un contact qui s'écrit en tout cas à la mitzvah. Tu es intéressé, tu es passionné par elle. D'ailleurs, c'est un des grands conseils, une des kabbalot, apprendre au Shana Kippour. Une mitzvah qui est un peu light chez toi, ou alors une avéra qui te perturbe, qui te dérange trop, prendre la ferme décision de l'étudier. D'étudier les textes de la Torah qui parlent de telle mitzvah, de telle avéra. Là, la chot, le moussa, l'étudier. Tous les jours, un quart d'heure, ou alors deux fois par semaine, une demi-heure ou une heure. Après quelques semaines, on sent déjà un déclic. Après quelques mois, c'est une réelle transformation par rapport à la mitzvah. Tout cela, eh bien, c'est un cadeau qu'Hachem nous donne une fois par an à Rosh Hashanah et Kippour. On doit l'exploiter. Et comme dit le Rachash, dans sa fameuse Rachash de Rosh Hashanah, il dit que Rosh Hashanah et Kippour, eh bien, avec un peu d'effort, on peut réaliser ce qu'un grand tzaddik peut réaliser un jour ordinaire de l'année avec beaucoup d'efforts. Comme dit aussi le Pélévette, la différence entre les jours de Tchouva et toute l'année est comparable à la différence entre la lumière et l'obscurité. C'est pourquoi on se doit, n'est-ce pas, d'exploiter le temps, de ne pas le perdre. Il y avait une histoire qui vient de citer aussi. Dans une ville il y a quelques dizaines d'années, eh bien, à Soukhot, ils prenaient le sraf, n'est-ce pas, les branches pour la soukha. Après quelques années, les gars se sont rendus compte de cela. Et petit à petit, ils ont augmenté les prix de ce sraf en question. Bon, jusqu'à ce que le prix devienne trop cher. Alors les dirigeants de la ville se sont réunis, la communauté, et ils ont voulu faire une takana, proclamer qu'on va dorénavant non pas acheter ces bois qui sont si chers, mais un bois qui est ordinaire. Bien que c'est un moins grand hidro mitzvah, mais pour les inciter l'an prochain à baisser le prix. Avant de faire passer la nouvelle dans la communauté, je suis allé voir le Rav de la ville. Le Rav était un grand sadique et c'était pendant les jours, n'est-ce pas, entre Shana et Kippour. Le Rav leur a dit, vous avez tout à fait raison, mais je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que vous avez le temps de vous affairer à cela pendant les jours de la Tchouba. Alors il dit, croyez-moi, bien que je vis très modestement, très difficilement, même si je voyais une bourse pleine d'argent dans la rue, ça ne m'aiderait pas à l'esprit de me baisser pour la ramasser. Tellement j'ai pas, n'est-ce pas, ces quelques instants à perdre. On n'est pas à ce niveau-là, évidemment. Vous voyez une bourse, ramassez-la tout de suite, avant que quelqu'un vous la prenne. Mais cependant, chacun à son niveau. On doit être intelligent de ne pas perdre le temps pendant ces 10 jours-là. On l'a dit hier, tout ce qu'on peut reporter après Kippour, il faut le reporter. S'investir dans la Torah, dans la Tshuva, faire un bon nefesh, même faire la Soukha, et Arbat Aminim, et une Machloket, est-ce qu'il faut le faire ou pas? Certains pensent que c'est de Oyetzara ou s'intéresse à cela. Mais bon, ça encore éventuellement, n'est-ce pas, c'est une Machloket. Est-ce que c'est bien? Parce qu'il y en a qui disent qu'on ne devrait pas avoir le temps à cause de la Tshuva, on devrait tellement être affairé pendant 10 jours à la Tshuva, qu'on n'aurait pas le temps de faire la Soukha et de chercher un bel étrog. Ça, on pourrait le faire qu'à Kippour. Certains pensent que non, au contraire, c'est une mitzvah, mais ça dépend du temps qu'on y passe. Ça dépend, est-ce que réellement, on s'est investi suffisamment dans la Torah, dans la Tfila, dans la Tshuva. Et encore une fois, n'est-ce pas, et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense à Rosh Hashanah, ça a un impact gigantesque sur l'avenir, à tel point que même les simanim, même les jeux de mots qu'on va trouver entre les aliments qu'on va manger, eh bien, ont un impact sur l'année à venir. C'est pourquoi on doit être très prudent pendant Rosh Hashanah et Kippour, même à n'importe quelle pensée. Amen.